Aujourd'hui, le temps lui-même nous évoque la rentrée, avec ce temps pluvieux là. Et les enseignements du Christ aujourd'hui nous ramènent encore une fois à la sévérité de la vérité, à l'intransigeance de l'amour. Il cite Isaïe, le Seigneur. Et pourquoi cite-t-il Isaïe ? Il oppose les lèvres au cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Nous nous souvenons de ce passage très beau où Jésus place un enfant au milieu des disciples et il leur dit « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Et là, il nous donne la recette pour récupérer un cœur qui soit pur comme celui d'un enfant. Or, nous savons bien que les enfants ne sont pas impeccables, mais ils sont purs comme Jésus a dit qu'ils étaient purs. En eux, il n'y a pas tous ces sentiments, ces 12 vices que Jésus énonce à la fin du passage que nous venons de lire. Les lèvres, ça s'oppose, c'est l'apparence. Le cœur, c'est la vérité. Les lèvres, c'est l'extérieur, le cœur, c'est l'intériorité. La loi divine est une question de cœur, pas une question d'apparence. C'est ce qui la distingue de toutes les idéologies, que ce soit des idéologies profanes, politiques, comme on en connaît plein, ou que ce soit des idéologies religieuses, parce que ça existe aussi, ça, des idéologies religieuses. C'est-à-dire des religions qui invitent les fidèles, par ce qu'elles sont, par leurs commandements, leurs structures, à être tournés vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. L'intériorité, c'est le grand trésor que le christianisme a libéré. Et le christianisme, c'est Jésus, c'est personne d'autre. Là, il interpelle des gens qui viennent de Jérusalem, des spécialistes du monde religieux, ils ont entendu parler, on est au début de l'Évangile, de ce nouveau rabbi qui prêche, ils sont venus le mettre à l'épreuve, coup de chance pour eux, tout de suite ils trouvent un bon prétexte pour le mettre mal à l'aise. Ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Et tout le texte nous dit qu'il s'agit de la tradition des anciens. À aucun moment on nous dit « c'est la loi de Moïse ». Et effectivement, Moïse ne parle jamais de ça. Donc, ils invoquent devant Jésus une loi qui est totalement humaine, qui n'est pas la loi de la révélation, d'où la réaction de Jésus. Vous êtes au niveau de l'opinion des hommes, vous n'énoncez que des préceptes divins. La tradition des hommes, voilà ce qui habite finalement l'intérieur du cœur des interlocuteurs de Jésus. Ça, ce ne serait pas très grave s'il y avait une recherche de la vérité qui venait la compléter pour arriver jusqu'à la loi divine, pour arriver jusqu'à cette révélation, parce que seule la loi divine conduit à la sagesse. Mais il n'y a pas cet objectif-là. Il y a au contraire, comme objectif implicite, éteindre l'autorité de la révélation divine. Implicitement, ils ne vont pas parler contre la loi de Moïse directement, mais en même temps, substituer à la loi de Moïse dans leur vie quotidienne des rites que Dieu n'a pas demandé. Lavage de coupe, etc., comme on a pu le dire, de plats, de mains, de pieds, de tout ce que vous voudrez. Et comme ça, ils ont réduit la loi à des rites faisables. Mais les rites faisables sont également vides, vides du point de vue spirituel. Ça n'apporte rien. Ça ne nourrit que l'autosatisfaction, ça ne nourrit que l'illusion. Et finalement, l'hypocrisie est nourrie par cette illusion que ces hommes se font en se croyant religieux au sens de Dieu. Ils ne sont religieux qu'au sens des hommes. La loi divine, au contraire, c'est ce que Jésus dit, elle est éducatrice. Elle éduque à la vérité, elle éduque à l'amour. Elle est pleine. Elle s'oppose à ce vide que représente la tradition des hommes ici mentionnée et dénoncée par Jésus. La pureté religieuse, nous dit le Seigneur, est d'ordre spirituel. Rien d'extérieur n'est impur. Et c'est valable ça, non seulement pour ce qu'on peut manger, pour ce qu'on peut toucher, mais c'est valable aussi pour les tentations. Souvent, les gens font la confusion, et ils sont en état de tentation, et puis ils viennent se confesser de leur tentation. Mais non, la tentation ne rend pas impur. Si vous passez à côté d'un possédé, vous ne risquez pas d'attraper une possession diabolique au passage. Non, non, rien de tel. Tout ce qui est extérieur, y compris spirituellement, eh bien, ne rend pas l'homme impur. Et donc, la pureté, elle est liée au cœur, nous dit Jésus. Et ça, c'est très profond comme enseignement. Il m'honore des lèvres, ce peuple-là, mais son cœur est loin de moi. Si vous ne redevenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et pour récupérer ce cœur, eh bien, il faut vraiment y mettre la loi divine. Et la loi divine, eh bien, Jésus l'énonce tout au long de l'Évangile. Là, on a un exemple ici par rapport à ce catalogue de vices qu'il nous propose de méditer. Comprenez pourquoi ce qui est impur sort. Parce que si ça sort, ça veut dire que ça habite le cœur. Ça ne sortirait pas si ça n'habitait pas le cœur. Alors, avant même de commettre, par exemple, un meurtre, eh bien, comme Caïn, le désir de tuer habite le cœur. Et l'acte ne fait que faire paraître au grand jour ce qui habite le cœur de l'homme mauvais. Voyons maintenant, enfin, ces 12 vices que Jésus nous donne en exemple. Mais 12 est un chiffre parfait, nous le savons bien. Alors, ça commence par l'inconduite. On peut le traduire parfaitement par débauche, la porneia ou fornication. Donc là, on est vraiment au niveau du sexe, là. Cette inconduite, elle est vraiment de cet ordre-là, vous voyez. Combien, par exemple, on le voit de nos jours, mais c'est de tout temps, certaines personnes cultivent une liberté à travers leur tenue, leurs expressions, une liberté au mépris de la sagesse. Au mépris de ce qui fait, de ce qui fonde, eh bien, une véritable sagesse, un véritable équilibre dans la vie. Cet esprit de provocation, comme nous le voyons continuellement, le wokisme, par exemple, vous voyez, est complètement aveugle. Et tout cela au nom d'une liberté qui est promue au rang de vérité. Or, la liberté, ce n'est pas la vérité. La liberté, c'est autre chose. La liberté, c'est ou de se soumettre à la vérité ou de la récuser. Et lorsqu'on est dans l'inconduite, dans la débauche, dans la fornication, donc, eh bien, manifestement, on récuse la vérité, on récuse la sagesse. Donc c'est, je dirais, préparatoire, ça indique vraiment un état d'esprit qui est comme une éponge prête à absorber tous les péchés possibles et imaginables. Ensuite, il y a des péchés là, qui sont très, très faciles à comprendre, le vol, le meurtre, l'adultère. Bon, ça, c'est pas compliqué. L'adultère, parce que la famille, c'est quelque chose de sacré, c'est une vraie vocation, au même titre que la vocation sacerdotale, la vocation religieuse. C'est au même niveau. C'est une vocation. c'est pas seulement une alliance temporaire qu'on fait, ce que les incroyants pensent. Hein. On se marie, on divorce, on se remarie, remarie comme ça jusqu'à ce qu'on soit trop vieux pour pouvoir faire de nouveaux projets. Donc vol, meurtre, adultère, on comprend bien que ça détruit la vie sociale, que ça détruit la vie des gens en général, ça détruit les familles pour l'adultère. Puis la cupidité, la pléonexaï en grec, c'est littéralement le désir égoïste, l'avarice. Vous voyez, c'est lié à l'avarice, la cupidité. C'est pas seulement, je dirais, un amour neutre des choses matérielles. Par exemple, dans notre société de consommation, il y a beaucoup de cupidité. Mais ça n'est rien d'autre que de l'avarice, où ça prépare le chemin à l'avarice pure et simple. La destruction du bien commun, ce qu'on ne partage pas. Or, toutes les choses matérielles sont faites pour être partagées avec mesure, avec sagesse, avec pertinence. Mais c'est fait pour être partagé, c'est pas fait pour thésauriser. Ensuite, cupidité, méchanceté, la poneria, cette fois-ci. La méchanceté, c'est aussi, ça peut se traduire par perversité, ce qui pervertit le sens de la vérité, ce qui gauchit l'intelligence de l'homme et qui le met dans un état de quasi-démence déjà, d'un point de vue moral en tout cas. La méchanceté. On connaît des gens qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas avoir un regard positif sur les autres, c'est toujours ce regard négatif et destructeur. Ensuite, il y a l'envie. Bon, ça, on comprend bien l'envie, ça fait penser à Cain. Là, je me perds dans ma liste. Il y a ensuite aussi la ruse. La ruse, vous voyez, c'est le serpent au jardin d'Éden qui est rusé, le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est une intelligence, littéralement, la phronésis, une intelligence tournée sur elle-même. Et ça devient la fraude. La ruse conduite à la fraude. La débauche. Alors c'est en français, c'est comme la porneia, mais là c'est un autre mot, aselgeia. C'est l'immoralité totale, une immoralité sans fin. Et l'immoralité totale, c'est une destruction de la conscience morale de l'homme. C'est une espèce d'homme, de créature, retourné à l'état animal de la transe, dans les sensations, dans les... Et là, évidemment, la débauche, ça regarde tout ce qui est sexuel, tout ce qui est levain aussi, tout ce qui est ivresse, les drogues, et puis même les distractions. Vous voyez, l'appétit des plages ensoleillées, que sais-je, moi. La débauche, une débauche, c'est quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. C'est un état de transe, la débauche. C'est le mal qui prend vraiment possession de la personne. L'envie... Ophthalmos poneros, nous dit le grec, le mauvais œil, le mauvais regard. L'envie, c'est ça, et donc la jalousie de Cain qui conduit à tuer son frère. Or, c'est né comment ? À partir de rien, la jalousie de Cain. Il était, qu'est-ce que ça veut dire être jaloux ? C'est l'autre a quelque chose que je n'ai pas. C'est forcément se mettre au centre du monde et trouver scandaleux que les autres puissent être à leur tour au centre de ce monde. Vous voyez, c'est presque la démesure finale dont nous parle Jésus. La diffamation, littéralement, c'est la blasphémia, le blasphème. Nous, on traduit ça par diffamation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la blasphémia, c'est une malédiction qu'on porte contre les autres pour les détruire. Pensez à la destruction, pas forcément physique, mais à la destruction des réputations des personnes morales contre l'Église, par exemple. Eh bien, c'est terrible. Vous voyez, il y a eu une affaire, là, il y a une année ou deux ans, au Canada, on a accusé les écoles qui étaient tenues par des religieux d'avoir assassiné en masse des Indiens. Et on disait, il y a plein de charniers à côté de ces écoles. Eh bien, aujourd'hui, là, deux ans après à peu près, on n'a toujours pas trouvé un seul corps. Mais c'est la diffamation. Faire salir pour salir. Quand je pense que même le pape a été s'excuser au nom de l'Église pour des chimères, pour du vide, pour avoir cru des journalistes sans contrôle, sans avoir pris la peine de contrôler, c'est dommage. Enfin, l'orgueil et la déraison. L'orgueil et la démesure. Bon, l'orgueil, c'est bien ce que c'est se mettre à l'égal de Dieu, considérer son ego comme s'il était l'égal de Dieu. Et puis il semble que Jésus ajoute quelque chose de plus à l'orgueil. En fait, c'est le fils aîné de l'orgueil, la démesure, ou la fille aînée. La démesure, on pourrait traduire ça par folie. L'orgueil conduit à la folie. Et on le voit bien dans ces sociétés qui s'écroulent à force d'être au sommet de leur réussite. Elles finissent par s'écrouler parce qu'elles renient Dieu, parce qu'elles combattent Dieu, elles tombent et elles font tomber les peuples dans la folie. Nous sommes loin de la sagesse. 12 vices que Jésus nous demande de méditer, 12 vices qui, s'ils habitent notre cœur, nous interdisent d'être comme les enfants. Oh certes, les enfants ne sont pas parfaits. Eux, ils ont besoin de se laver les mains avant de manger parce qu'elles sont vraiment sales. Mais ce n'est pas là l'essentiel, nous dit Jésus. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un cœur capable de communier comme nous allons le faire au cœur de Jésus durant l'Eucharistie.